Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Écoutons ce que déclare la Bible.
Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu.
Voici donc le sujet de notre série de discussions actuellement. Que signifie être un enfant de Dieu? Et comment vivre en tant qu'enfant de Dieu?
Ian s'entretiendra avec André afin d'approfondir notre compréhension sur cette vérité si précieuse.
Bonjour André, et merci de vous joindre à nous pour nous parler de ce thème biblique si important.
Merci Ian et bonjour à tous.
Lors de notre dernière émission, vous nous avez appris que nous pouvons entièrement placer notre confiance en Dieu, notre Père. Mais quel va être le sujet que nous allons aborder aujourd'hui?
Avez-vous déjà constaté que les pères et leurs fils peuvent éprouver beaucoup de plaisir à travailler ensemble sur des projets communs?
Oui, cela est vrai. Maintes fois, j'ai pu le constater. Chaque fois que je dois accomplir des tâches à la maison ou dans le jardin, mon fils aime me rejoindre pour m'apporter son aide. Nous éprouvons en effet beaucoup de plaisir à réaliser une activité ensemble.
Nous voyons la même chose se produire dans la relation qui existe entre Jésus le Fils et Dieu son Père. L'un et l'autre étaient unis dans l'œuvre du salut qu'ils avaient décidé d'accomplir. Cet aspect de leur relation apparaît surtout dans l'évangile de Jean. Jésus y déclare par exemple « Moi et le Père, nous ne sommes qu'un ». Écoutons à présent la lecture de Jean chapitre 17, versets 1 à 4. Ces paroles sont extraites de la prière que Jésus adresse à son Père la veille de sa mort sur la croix.
« Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. »
Ce texte nous rappelle que Dieu le Père avait confié à Dieu le Fils une œuvre à accomplir. Jésus, le Fils, quant à lui, prenait plaisir à accomplir la volonté de Dieu en conduisant les hommes et les femmes à une véritable connaissance de son Père.
Cependant, obéir à Dieu a nécessité à Jésus-Christ mourir sur une croix, car là, il y a porté tous nos péchés, afin que nous puissions en être libérés et pardonnés par Dieu.
En effet, Dieu le Père et Dieu le Fils voulaient sauver les hommes, l'humanité entière. Mais cette mission allait impliquer des moments difficiles, un déchirement extrême. Et pour mettre en œuvre un tel salut, il fallait une entente parfaite, une confiance réciproque entre Dieu le Père et le Fils. Or, tous deux étaient absolument convaincus de la nécessité d'un tel salut. Ils ne se trouvaient pas d'autre moyen pour venir au secours de l'humanité perdue. Aussi, l'un et l'autre décidèrent-ils d'agir, motivés par l'amour et la joie de penser aux multitudes qui allaient être sauvées. Et leur dessein en valait la peine.
À travers le texte lu, nous découvrons aussi le désir de Jésus de glorifier son Père. Mais que signifie ce mot « glorifier » ?
Glorifier une personne, c'est la mettre en valeur, c'est œuvrer pour sa renommée. Des hommes politiques peuvent glorifier le président de leur pays en élaborant de longs discours vantant ses mérites, par exemple. Mais revenons au thème des enfants et de leurs parents. Avez-vous déjà eu l'occasion de remarquer que souvent, un enfant aime mettre en valeur les qualités de ses parents devant les autres enfants ? Dans une cour de récréation, nous pouvons souvent entendre de tels propos. « Mon père est le plus fort. C'est le plus doué. Mon père est le plus riche. »
Oui, et je me souviendrai toujours du jour où mon fils a déclaré très convaincu « Mon père n'est jamais fatigué. même quand il dort.
Voilà un exemple amusant. Il est tout naturel pour un enfant de mettre en valeur ses parents et de faire valoir leurs mérites. Jésus de même voulait glorifier son Père céleste. Il voulait que les hommes sachent à quel point Dieu est merveilleux, puissant et juste. En leur manifestant la bonté de Dieu, il voulait donner aux hommes l'envie de le connaître, le désir de venir à lui.
D'accord, André, nous venons d'examiner la relation d'amour que Jésus entretenait avec son Père. Nous avons aussi découvert toute l'harmonie qui prévalait dans ses projets pour mettre en œuvre les plans de Dieu et aussi son désir de glorifier son Père. Mais pouvons-nous à présent traduire ces leçons sur le plan de notre propre relation avec Dieu?
Bien sûr. D'abord, tout comme un enfant aime mettre en valeur les atouts de ses parents, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrions éprouver ce même désir, celui de raconter aux autres combien nous avons un Dieu merveilleux et bon. Il est notre Père céleste et nous devons parler de lui tout aussi naturellement qu'un enfant parle de ses parents. Parce que nous aimons et admirons notre Père céleste, nous devons raconter ce que nous savons de lui afin d'inciter d'autres à l'admirer et à l'aimer.
Dieu le Père et Dieu le Fils étaient unis. Ensemble, ils ont réalisé une œuvre de salut merveilleuse. Dieu notre Père nous invite-t-il à participer à une mission similaire?
Oui. Prenons pour exemple les paroles de Jésus trouvées dans l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 21. Jésus déclare « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Un deuxième exemple se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Dieu nous confie une mission, elle consiste à appeler les hommes et les femmes à venir à lui, où qu'ils soient dans le monde. Dieu veut que tout chrétien participe et contribue à cette mission, chacun selon ses propres dons, chacun selon ses possibilités. Nous devons comprendre l'importance de ce que Dieu, notre Père, désire accomplir et prendre plaisir à travailler avec lui pour l'aboutissement de cette mission.
Et cette œuvre consiste surtout en l'annonce de la bonne nouvelle et en l'enseignement de la Bible.
Cela est vrai, mais nous pouvons posséder une vision plus large de ce que Dieu désire accomplir. Souvent, les enfants aiment ce que leurs parents aiment. L'enfant de Dieu doit donc aimer ce que Dieu aime. Dieu aime la justice. Alors l'enfant de Dieu doit aussi aimer la justice. Il doit la rechercher, travailler pour la mettre en place. Il doit la promouvoir. Dieu aime la compassion et la miséricorde. De même, l'enfant de Dieu doit porter secours à ceux qui souffrent et offrir un réconfort à ceux qui sont éprouvés.
Merci André. Les parents et les enfants partagent souvent les mêmes points d'intérêt. Et nous avons compris qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous intéresser au dessein de notre Seigneur pour le monde et participer à leur réalisation.
Oui, et pour conclure, je voudrais revenir sur une vérité que j'ai souvent évoquée tout au long de cette série. Il s'agit de la différence énorme qui existe entre ceux qui conçoivent la vie chrétienne comme un véritable esclavage et ceux qui la vivent comme une relation merveilleuse vécue entre un enfant et son père. Dieu ne nous oblige nullement à accomplir sa volonté, comme un tyran ou un maître l'exigerait de son esclave. Une telle relation engendrerait des sentiments de rancune, de peur et de rébellion. Non! Dieu nous invite à marcher avec lui dans la réalisation de ses grands projets. Nous devons considérer cette invitation comme une grâce, un véritable privilège. Si tel est le cas, nous participerons avec plus de joie et d'enthousiasme à la mission que Dieu nous confie. Car le plus important est que notre Père céleste soit glorifié.
Nous continuons dès à présent notre série de courtes méditations bibliques, dont le sujet porte sur la personne de Jésus-Christ, tel qu'il nous est présenté dans le livre de l'Apocalypse.
Le livre de l'Apocalypse fut écrit par l'apôtre Jean. Le but de son livre est d'encourager les chrétiens à tenir ferme quand confrontés à la persécution et à la souffrance. Écoutons donc Apocalypse chapitre 2, verset 11.
Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal.
Je cède à présent la parole à notre invité Jean-Luc, qui nous fera part de ses réflexions sur ce verset.
Le texte que nous venons d'écouter est extrait d'une lettre que le Seigneur Jésus a adressée à l'église de Smyrne il y a plus de 1900 ans de cela. Les chrétiens de Smyrne vivaient des moments particulièrement atroces. Les habitants de cette ville les méprisaient. Certains avaient répandu sur eux de fausses rumeurs en les calomniant, au point que ces accusations portaient atteinte à leur liberté. Beaucoup furent de ce fait traînés en prison pour des raisons injustes et certains chrétiens furent même exécutés. Dans cette lettre, le Seigneur Jésus appelle ses chrétiens à demeurer fidèles, à vaincre, à persévérer même au creuset de leurs épouvantables épreuves. Comment cela peut-il être possible? Le Seigneur le rappelle, la mort est redoutable, effrayante, mais il existe une seconde mort à redouter plus encore. En quoi consiste-t-elle? La Bible affirme qu'après la mort, toute personne devra se présenter devant le Seigneur Jésus-Christ, le juge par excellence. Or, tous ceux envers qui le Seigneur Jésus prononcera des paroles de jugement subiront ce que le livre de l'Apocalypse appelle la seconde mort. La seconde mort est décrite comme un étang de feu. Il s'agit, certes, d'une image, mais elle traduit bien l'état tragique de souffrance de ceux qui subiront pour l'éternité le bannissement loin de la présence vivifiante de Dieu. Le chrétien, à l'opposé, possède l'assurance, la véritable espérance de ne jamais subir la seconde mort. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Seigneur Jésus, lors du jugement dernier, le relèvera. Non pas parce qu'il n'a jamais péché, mais parce que Dieu lui-même a porté ses péchés sur la croix. Et c'est fort de cela que l'enfant de Dieu est prêt à tout endurer par amour pour le Seigneur. Le chrétien est celui qui réalise que l'enjeu le plus important n'est pas celui de la mort physique, mais plutôt celui de la seconde mort, plus terrifiante encore par ses conséquences. Lorsque cette perspective divine et cette espérance éternelle sont profondément enracinées dans nos cœurs, nous pouvons endurer les difficultés et vaincre, par la foi, les dangers qui se présentent à nous.
Merci Jean-Luc pour ces paroles empreintes d'espérance. Nous retrouverons nos deux invités pour la suite de ces séries lors de notre prochaine émission. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.